E-Radio, l'invité de la rédaction, Cassandre Thomas.
Gérard Husson, vous êtes le président de l'association Alliance 33 qui œuvre à soutenir les personnes en fin de vie ainsi que leurs proches en Gironde. Bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui dans vos locaux à Bordeaux.
Bonjour.
Pouvez-vous tout d'abord nous raconter l'histoire de cette association d'Alliance 33 ? Comment a-t-elle été initialement créée ?
Alors Alliance, qui ne s'appelait pas à l'époque Alliance 33, a été créée le 18 octobre 1986 par le professeur Benoît Burugoa, qui était un grand spécialiste en soins palliatifs. Il a pris la retraite maintenant, mais il s'occupe toujours de soins palliatifs. Voilà. Et notre démarche, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, de proposer d'accompagner les personnes gravement malades, en fin de vie, et ou souvent en soins palliatifs. Notre devise, c'est jusqu'au bout, accompagner la vie. Voilà. Ceci, conformément à la loi du 9 juin 1999, c'est notre référence, nous. Cette loi stipule dans son article 1er, toute personne malade, dont l'État le requiert, a le droit à des soins palliatifs et un accompagnement. C'est la première fois dans l'histoire des lois que les professionnels des soins palliatifs sont associés à des bénévoles d'accompagnement. Donc nous intervenons en complémentarité des équipes pluridisciplinaires de soins palliatifs. Les équipes de soins palliatifs sont des professionnels formés aux soins palliatifs et elles sont pluridisciplinaires, ces équipes, parce qu'il y a médecins, infirmiers ou infirmières, psychologues, assistants sociaux pour trouver des aides, etc. Donc il s'agit de s'occuper de la personne. Au-delà de la seule souffrance physique, il y a tout ce qui va à côté, la souffrance intellectuelle, etc.
Votre activité principale est d'accompagner ces personnes. Comment concrètement cet accompagnement il se traduit ?
Cela signifie que, à partir du moment où on n'est pas professionnel, nous n'avons droit à aucun soin et nous n'allons pas intervenir dans les soins. Notre statut, c'est présence, écoute. Nous sommes là, à côté d'une personne qui est en fin de vie. Et nous sommes à l'écoute, sans jugement, dans l'acceptation inconditionnelle et totale de l'autre. Pas de préjugés. C'est parfois un peu difficile, mais voilà. Nous accompagnons la personne jusqu'au bout, dans l'écoute. J'ai donc pas de projet avec cette personne. C'est pas moi qui vais mener la conversation. C'est la personne malade qui a des choses à dire, ou pas. Je suis présent, par exemple si c'est à domicile, parce que nous accompagnons à la fois à domicile et dans des institutions spécialisées. À domicile, un accompagnement en général, c'est 2 heures. Voilà, nous sommes à côté de la personne pendant 2 heures. C'est sa conversation que nous écoutons. Nous avons un statut particulier. En effet, nous ne sommes pas de la famille. Donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de choses comme ça. On n'est pas des amis. D'abord parce que des fois les amis ils mentent un petit peu. Mais non, t'es pas si malade que ça, tu parles. Et puis des fois, ils sont partis parce qu'ils ont la trouille. On n'est pas des soignants, on n'a pas la blouse blanche, etc. On est autre chose. À partir du moment où on a ce statut, et pour peu que la confiance s'instaure, et souvent elle s'instaure dès la première visite, à partir du moment où nous sommes disponibles à l'écoute, nous sommes appelés à tout entendre, sans jugement.
Donc l'écoute, c'est bien le maître mot de votre activité.
Absolument.
Est-ce qu'on apprend à écouter, vous en tant que... Donc vous êtes des bénévoles, vous avez des formations pour apprendre à écouter ?
Voilà, on apprend à écouter, c'est vrai qu'on est des fois... On sait écouter, enfin on croit parfois. Alors, cela veut dire là aussi, à partir du moment où notre activité est encadrée par la loi, on ne s'improvise pas bénévole d'accompagnement. Pour vous dire, hein, il y a en France en gros 380 associations comme la nôtre. Sur ces 380, il y en a environ la moitié seulement qui est agréée, notamment par la SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, agréée parce que nous avons signé une charte et que nous respectons les préconisations de la SFAP, notamment en matière de formation. Alors, sans entrer dans le détail, il y a une formation chez nous qui dure, on va dire, 51 heures, mais ce n'est pas 51 heures comme ça, ce sont 17 séances de 3 heures, répartis de semaine en semaine, avec une semaine de réflexion entre deux. Et il n'y a pas de cours à proprement parler. Vous parliez d'apprendre à écouter. Il n'y a pas de cours à proprement parler. Les thèmes qui sont proposés dans ce cycle de formation, ce sont des thèmes de réflexion sur soi, sur la vie, sur la mort, sur mes peurs, sur mes craintes, sur mes préjugés. Et ça n'est pas terminé dans la formation parce qu'à l'issue de cette formation, il y a un entretien particulier qu'on appelle cooptation, où on va décider si la personne va continuer ou pas. Si elle dit oui, et si nous disons oui, il y a ensuite une période de stage en binôme, c'est-à-dire que la nouvelle personne pressentie pour devenir accompagnant bénévole, va être accompagné à son tour pendant quelques séances de visite avec un accompagnant expérimenté, un tuteur en quelque sorte. Et au bout de 3, 4, 5 séances, il dit « Oye, ça y est, t'es prêt, on y va ».
En France et aussi en Europe, plus généralement, on parle de plus en plus du bien vieillir, de la fin de vie, et vraiment du bien vieillir en particulier. Est-ce que vous constatez dans votre secteur une augmentation du nombre de bénévoles ou de personnes qui s'intéressent à ces sujets ?
Énorme problème. Le Covid a fait, comme pour beaucoup d'associations, beaucoup de mal. En gros, nous avons tous perdu de 20 à 40% de bénévoles. Depuis, ça revient un peu, c'est-à-dire que peut-être certaines personnes se sont posées des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ? Puisque je ne suis pas mort par la Covid, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ? Et on voit arriver vers nous un public un peu différent, plus jeune, qui désirent s'engager. Mais donc, il y a un turnover. En permanence, nous recherchons à former des bénévoles, parce qu'il y en a qui vieillissent, il y en a qui s'en vont. Mais c'est effectivement un peu difficile, même s'il y a un nouvel attrait pour ce genre d'activité.
Emmanuel Macron a récemment présenté son projet de loi sur la fin de vie, parlant d'une aide à mourir. C'est le terme qui a finalement été retenu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme ? Est-ce que c'est mieux que euthanasie ou suicide assisté ?
C'est une question brûlante d'actualité. Alors, notre position, elle est simple. Enfin, en plus, c'est la mienne comme ça. Vous avez raison, on parle maintenant d'aide à mourir. En tout cas, on ne parle plus dans ce projet, qui n'est qu'un projet de loi, ni de suicide assisté, ni d'euthanasie. On parle d'aide à mourir. Alors, nous, dans notre pratique quotidienne de l'accompagnement, c'est vrai que nous recevons souvent des personnes que l'on accompagne, des souhaits de mourir. Ils ne me demandent pas à moi de les faire mourir. Bon. Mais ils disent, oh, j'attends plus qu'une chose, c'est mourir, mourir. Finalement, lorsqu'on continue à écouter la conversation, on s'aperçoit que la personne n'est pas si pressée que ça de mourir. Bon. Et même parfois, cette personne exprime des souhaits, des envies, des projets. Et pour peu que nous écoutions ce projet, j'ai envie de mourir, mais j'ai quand même un projet. Oui, c'est un peu ambigu, cette affaire-là.
Et il y en a beaucoup qui disent que parfois, c'est la souffrance qui donne envie de mourir.
Alors justement, à partir du moment, dans la démarche palliative, on est des fous de la démarche palliative, nous, faut pas oublier ça. À partir du moment où la souffrance physique est soulagée, et c'est l'un des objectifs des soins palliatifs, on va administrer de la morphine, d'autres... Voilà. À partir du moment où la souffrance physique est supprimée, l'envie de mourir disparaît presque. Alors il reste toujours ce qu'on appelle la souffrance globale, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance morale, psychologique, sociale, je ne suis plus bon à rien, je ne peux plus rien faire, j'ai une chance pour ma famille, etc. Mais l'envie de mourir ne vient pas de ça, elle vient de la souffrance physique. Et à partir du moment où c'est apaisé, j'ai beaucoup moins envie de mourir. Imaginez simplement que lorsque vous avez une rage dedans, c'est tellement terrible que presque vous aurez envie de mourir. Mais non, on va soigner le mal aux dents, et puis après, vous n'aurez pas envie de mourir.
Bien sûr, mais il y a quand même des personnes qui, à la fin, ont quand même envie de mourir. Et donc, ce sera sans doute possible.
Alors,
pour elles.
On est bien d'accord. Et cette loi, qu'on soit d'accord ou pas, elle va sûrement passer. En ce qui nous concerne, à Alliance, nous ne sommes en aucun cas militants, ni pour, ni contre. Nous sommes dans l'écoute, attentifs au désir exprimé, respect de la liberté totale de l'individu par rapport aux droits des malades, que ce soit les directives anticipées, le refus de soins, etc. Il y aura sans doute ce droit de demander à mourir. Respect total. C'est pas moi qui vais pousser la seringue de toute façon. Voilà.
Donc, c'était une de mes questions aussi. Si justement ce projet de loi passe, est-ce que vous, à Alliance 33, ce sera quelque chose que vous serez amené à faire ?
Non. Alors, on nous pose souvent la question, même entre nous, si cette loi passe, qu'est-ce que ça va changer dans votre comportement d'accompagnant ? À mon avis, rien. Je serai toujours à l'écoute. Pour l'instant, c'est que des projets. Moi, j'attends de voir, nous attendons tous de voir quel sera le vrai contenu en dehors des mots du président. Alors, ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'il y a deux pistes. Il y a deux éléments, deux volets. Un premier volet, c'est le développement des soins palliatifs. Et dans la mesure où on développe les soins palliatifs, on va forcément limiter la douleur, donc limiter l'envie de mourir. Et le deuxième aspect, c'est l'aide à mourir. Sachant que, dans ce qui est actuellement écrit, c'est la personne qui demande à mourir qui serait autorisée à s'administrer elle-même la substance létale. Ou, si elle n'est pas en état de le faire, une personne de son choix. J'espère juste que la personne de son choix, ça ne sera pas moi.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Gérard Husson, président d'Alliance 33, d'avoir répondu à nos questions sur la fin de vie.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.